Journal sur France Inter, Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, le pass sanitaire, nouvelle formule. Si vous n'avez pas fait votre troisième dose 7 mois au plus tard après la deuxième, eh bien vous allez peut-être être désactivé dès aujourd'hui. Ça s'adresse aux 18 ans et plus. Mode d'emploi à suivre après les autres titres, Christelle.
En Tunisie, une manifestation anti-Sayed réprimée violemment comme au temps de la dictature de Ben Ali. Christiane Taubira a beau s'en défendre, elle sera quand même une candidate de plus. À la mi-journée. Elle fera son annonce officielle à Lyon et cherche à tout prix l'union de la gauche. La tragédie de Macbeth filmée par l'un des frères Cohen, un film sombre sur le pouvoir qui a beaucoup plu à Corinne Pellissier.
Et puis à partir de 8h20, les 400 ans de Molière avec trois invités pour en parler. Éric Ruff, l'administrateur général de la Comédie Française, Georges Forestier, historien de la littérature du XVIIe siècle, et Philippe Collin, producteur des podcasts Molière, Le Chien et le Loup.
La tartufferie de Djokovic dans le Journal des sports de Laetitia Bernard. Le joueur est reparti en centre de rétention en Australie. Le tournoi commence lundi. C'est donc le jour J pour le pass sanitaire. En attendant le pass vaccinal, les personnes de plus de 18 ans qui n'auront pas fait leur rappel 7 mois après leur deuxième dose verront donc leur pass désactivé et risquent de se faire recaler à l'entrée d'un restaurant ou d'un musée. Alors quel est le nouveau mode d'emploi ? Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Pour commencer, quelles sont exactement les personnes concernées ?
Eh bien, il s'agit des plus de 18 ans et un mois, pour être précis. Les tout jeunes majeurs ont en effet quelques semaines supplémentaires pour se trouver un créneau. Comme les plus de 65 ans la mi-décembre, sont concernées les personnes dont la dernière injection remonte au plus tard à 7 mois, 6 mois pour une infection. Mais attention, le délai sera ramené à 4 mois à partir du 15 février.
Et combien de personnes pourraient voir leur passe inerte à partir d'aujourd'hui ?
600 000 selon les dernières estimations du ministère de la Santé, mais c'est un peu au doigt mouillé. Ni l'assurance maladie ni Santé publique France ne sont capables de donner des chiffres précis. La première raison, c'est le nombre de personnes qui, avec Omicron, s'infectent quotidiennement. Sur cette dernière semaine, par exemple, plus de 250 000 ont chaque jour été testées positives. Or, être infecté repousse d'au minimum 3 mois la dose de rappel. Il y a également ceux qui ont fait leur injection récemment et dont le pass n'est pas encore actif. Par exemple, les vaccinés de cette semaine font partie des personnes à avoir un QR code invalide aujourd'hui. Il n'est en effet activé que 8 jours après la vaccination.
Justement, Hélène, quelles conséquences pour ces personnes qui n'ont pas fait leur dose de rappel à temps ?
Eh bien, il faudra passer par la case test antigénique ou PCR pour pouvoir aller boire un verre, prendre un train sur une grande ligne, l'avion ou encore utiliser les remontées mécaniques. Pour mémoire, ces tests sont payants et seulement valables 24 heures et ils ne seront plus acceptés du tout une fois le pass vaccinal entériné.
Le pass vaccinal, justement, poursuit son chemin à l'Assemblée. Le texte a été adopté cette nuit en deuxième lecture au bout d'une nuit de débat. Il repart au Sénat, légèrement modifié. Il ne s'appliquerait plus, par exemple, aux adolescents de 12 à 17 ans. Le marathon devrait s'achever demain après-midi avec un ultime vote des députés. Et pour inciter les plus rétifs, un cinquième vaccin vient de bénéficier du feu vert des autorités sanitaires, celui du laboratoire américain Novavax, basé sur une technologie classique, une alternative utile pour ceux qui se méfient de l'ARN messager. Alors, est-ce que ça peut changer la donne ? Nicolas Teilleur a posé la question à Romy Savert, sociologue des sciences et des croyances à l'université Clermont-Auvergne et au CNRS.
Ceux qui ont une peur vis-à-vis du vaccin ARN messager vont se dire qu'ils peuvent avoir une alternative. C'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que pour pouvoir aller vers la vaccination, il faut se dire que le vaccin est efficace et que la Covid existe et qu'elle est plus qu'une grippette. Et c'est là que on ne sait pas encore si ça va fonctionner. Déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, l'idée que Emmanuel Macron, avec sa petite phrase, a poussé des personnes à se dire finalement, je voulais me faire vacciner avec le Novavax et à présent, non, je veux continuer à être un non-citoyen, comme l'évoque le président de la République.
Romy Sauvert, qui était l'invité de France Info, et il y aura encore des manifestations anti-vax aujourd'hui. 14 380 classes fermées à cause du Covid, c'est le dernier chiffrage de l'Éducation nationale qui marque un record depuis le début de l'épidémie il y a 2 ans. Mais il y a a tout de même une bonne nouvelle. En Île-de-France et en Corse, le nombre de passages aux urgences et d'hospitalisations ralentit. Le pic devrait être atteint fin janvier ou début février. Les Pays-Bas, eux, vont assouplir leurs restrictions. Les commerces, salles de sport, coiffeurs vont pouvoir rouvrir dans les prochains jours, mais pas encore les bars, restaurants et musées.
À l'étranger, les Tunisiens ont choisi le 11e anniversaire de la chute de Ben Ali et son régime pour protester contre l'actuel président Saïed.
Oui, et la répression qui s'en est suivie ressemblait furieusement à celle de l'époque de la dictature. La manifestation destinée à dénoncer un coup d'État du nouveau dirigeant avait été interdite sous prétexte de pandémie. Et on a assisté à des scènes de violence inédites depuis la révolution de Jasmin, comme en témoigne notre correspondante Maureen Mercier.
Gaz lacrymogène, canon à eau, arrestations parfois très musclées, coups de matraque, comme sur ce père de famille recroquevillé sur l'une des principales artères de la capitale. La police vient de charger, il est encore choqué, son visage ensanglanté.
C'est la police qui m'a frappé. Même le sang qui coule maintenant, c'est pas grave pour moi. Moi, je cherche ma liberté. Je cherche la liberté de mes filles, de mes enfants.
Le président a interdit tout rassemblement pour cause de Covid. Officiellement, pour ses opposants, il se sert de la pandémie pour briser la contestation.
Nous affrontons une force d'ordre incroyable, du jamais vu, même à l'époque de Ben Ali.
Toutes les rues, c'est tout encerclé par les policiers et les barrages. On est revenu au régime de Ben Ali. C'est le régime policier.
Dès aujourd'hui, 15 janvier, le président Kais Saied appelle les Tunisiens à une consultation populaire sur Internet. Ils pourront s'exprimer sur les réformes qu'ils souhaitent voir mises en œuvre. Une méthode opaque, populiste, dénoncent ces manifestants qui appellent au boycott. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Le passage à tabac avait été particulièrement violent. Il y a un an, Youri, 15 ans, avait pris des coups de marteau en pleine tête sur la dalle de Beaugrenelle à Paris. 11 adolescents s'étaient acharnés sur lui. Les images diffusées sur les réseaux sociaux avaient suscité une indignation collective et illustré une fois de plus la violence des bandes. Un an après, 4 adolescents sont toujours en détention provisoire, mais il reste encore des zones d'ombre, Emmanuel Leclerc.
Tous les acteurs de l'agression de Youri ont été identifiés et surtout au fil des mois, le rôle très précis de chacun confie plusieurs proches du dossier pour qui l'enquête menée par les deux juges d'instruction saisie est exemplaire, ce qui est rare, disent-ils, à ce point en tout cas, dans des affaires de rixes, des expéditions punitives entre bandes de quartiers voisins. Ces dernières semaines, 2 jeunes adolescents mis en cause et placés en détention provisoire ont été relâchés, mais l'un d'eux, par exemple, n'a pas eu le droit de revenir à Paris. Selon nos informations, la situation des 4 derniers suspects encore en prison sera réexaminée dans les jours qui viennent. Mais là où il reste encore des interrogations, c'est sur ce qui s'est passé quelques jours avant le drame. Le 10 janvier l'année dernière, un garçon de 14 ans, originaire de la ville voisine de Vanves, est tabassé sur cette même dalle de Beaugrenelle. Et toujours selon nos informations, plusieurs adolescents ont été entendus. Des proches de Youri, de la bande dite du RD4, lui-même, on le sait, a été auditionné par la police judiciaire. Il a reconnu avoir été témoin de cette agression sans porter le moindre coup, mais sans s'interposer non plus.
En politique, elle ne souhaite pas être une candidate de plus. N'empêche qu'elle annoncera tout de même tout à l'heure sa candidature en fin de matinée.
Christiane Taubira, l'égérie de la gauche, veut porter une candidature de rassemblement et accepte le principe de la primaire populaire. Elle met en avant les convergences idéologiques à gauche. Et elle a soigneusement choisi la Croix-Rousse à Lyon pour faire son annonce, Antoine Gignot.
Le surnom de la Croix-Rousse, la colline qui travaille, a presque des allures de programme. Si Christiane Taubira choisit Lyon, c'est pour rappeler les racines des premiers mouvements ouvriers, la révolte des canuts, le salaire minimum imposé par ceux qui tissaient la soie au début du 19e. Il s'agit de faire entendre la voix de ceux qui peinent, la voix des oubliés, expliquent les proches de l'ancienne ministre de la Justice. Un antidote face à la lassitude de l'électorat de gauche, précise l'ancien député Christian Paul qui la soutient. Et c'est tout l'enjeu. En décembre, Christiane Taubira promettait de ne pas être une candidate de plus. Pour prendre l'avantage, elle joue la carte du rassemblement, propose une alliance politique qui dépasse le cadre des partis et s'appuie sur une partie de l'équipe du printemps marseillais, Olivia Fortin, adjointe au maire de Marseille.
Je travaille tous les jours avec des élus communistes, des élus écologistes, des élus socialistes pour construire les politiques publiques marseillaises et moi je dis que c'est possible de pouvoir proposer une méthode, de pouvoir travailler ensemble.
Cette méthode, précise l'équipe de Christiane Taubira, c'est celle de la primaire populaire avec ses 120 000 inscrits prêts à voter pour désigner à la fin du mois leur candidat. candidat préféré. Au Parti Socialiste, Benoît Payan, le maire de Marseille, Marguerite Dufay, à la tête de la région Bourgogne-Franche-Comté, affichent déjà leur soutien. D'autres promettent de se faire entendre dans les jours qui viennent.
Marine Le Pen, elle, nous promet à peu près au même moment tout à l'heure un message vidéo tourné devant le Louvre, là où Emmanuel Macron avait célébré sa victoire en 2017, histoire d'installer un peu plus le match entre elle et lui. Éric Zemmour est dans l'Aisne, Valérie Pécresse en Grèce pour évoquer la politique migratoire européenne. Le pouvoir jusqu'à la folie. Joel Cohen, l'un des maîtres du cinéma indépendant américain, sort The Tragedy of Macbeth sur la plateforme Apple TV, une adaptation de Shakespeare, son premier film sans son frère, un film sombre et minimaliste que vous considérez comme du grand art, Corinne Pellissier.
Il a choisi comme Orson Welles le noir et blanc et sa patine intemporelle pour livrer sa version de Macbeth dans un jeu d'ombre et de lumière rarement égalé, avec ses effets de symétrie et sa puissance formelle très inspirée du cinéma expressionniste allemand. Joel Cohen, pour la première fois sans son frère, se livre ici à un exercice audacieux avec un film à la fois fidèle au texte de Shakespeare, à son rythme, à ses couplets en rime. Chastise with the valor of my tongue all that impedes thee from the golden round. Et en même temps très inventif au niveau de la mise en scène entre théâtre et cinéma, une version sombre et épurée qui rappellera dans son format la grande époque du muet, beaucoup de poésie et un duo d'acteurs iconiques qui devrait truster les prochaines nominations aux Oscars. Denzel Washington, magistral en Macbeth, paranoïaque et vieillissant. We have scorched the snake. Et Frances McDormand, Lady Macbeth, la muse, qui réclamait de longue date le rôle à son époux Joel Cohen, put inspirer jusqu'alors pour la mettre en scène au théâtre. Il aura bien fait d'attendre. Le résultat, magnifique et rageur, n'a rien à envier à la douzaine de versions de ce monument théâtral, déjà adapté par les plus grands, de Kurosawa à Polanski.
Et le film ne sort que dans une seule salle de cinéma. Le sport entre tragédie et tragicomédie.
Oui, c'est l'un des sports, et avec entre autres la saga Djokovic.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
L'affaire Djokovic n'est pas terminée.
Mais effectivement, on attend encore quelques nouveaux épisodes au feuilleton. Mais la participation du numéro 1 mondial de tennis à l'Open d'Australie s'éloigne encore un peu plus. Son visa a été annulé pour la deuxième fois hier. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Alors depuis cette nuit, Novak Djokovic est à nouveau placé en résidence surveillée.
Comme prévu, puisque Novak Djokovic a été renvoyé en effet en rétention administrative. C'est ce que souhaitait le gouvernement australien après avoir annulé hier pour la deuxième fois le visa du numéro 1 mondial. Novak Djokovic a été reçu cette nuit par les services de l'immigration et c'est à l'issue de cet entretien que Novak Djokovic a été placé en résidence surveillée dans un lieu tenu secret pour éviter évidemment tout débordement et toute manifestation. Novak Djokovic va attendre maintenant la décision finale de la Cour fédérale australienne. C'est elle qui décidera si Djokovic doit être ou non expulsé d'Australie. L'audience aura lieu ce soir à 23h30 heure française. Novak Djokovic ne pourra sortir de son centre de rétention que pour assister à cette audience. Il se rendra dans les bureaux de ses avocats sous bonne escorte, entouré d'agents de la police aux frontières, et c'est en visioconférence qu'il tentera de convaincre les juges de le laisser participer à l'Open d'Australie. Si cette deuxième annulation du visa est confirmée, le Serbe risque d'être interdit d'entrer en Australie pendant 3 ans, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles.
Merci beaucoup Fabrice Abgral et je rappelle que quoi qu'il en soit, l'Open d'Australie commence lundi.
Voilà, il ne faut pas oublier l'essentiel. Eux, ils jouent, ça c'est sûr. Oui. Nouveau rendez-vous ce soir pour les handballeurs français au championnat d'Europe.
Face à l'Ukraine, effectivement, les Bleus sont en confiance hein, après leur victoire tout en maîtrise lors du match d'ouverture avant-hier face à la difficile équipe de Croatie. Il y a des absents majeurs, il y a une équipe remaniée mais une équipe qui travaille très bien, résume le pivot Ludovic Fabregas.
Honnêtement, j'étais pas surpris parce qu'on a énormément travaillé durant la préparation. Alors certes, elle a été perturbée, mais parfois, il faut aussi chercher le positif malgré les situations qui peuvent être compliquées. On s'est appuyé justement sur un groupe de joueurs plus réduit dû aux circonstances que l'on a connues. Mais justement, ça nous a permis d'échanger, de refonder des bases solides. Et petit à petit, lorsqu'on a réintégré des joueurs dans le groupe, on a continué justement sur cet élan-là. Et ça nous a permis, je pense, de se centrer sur l'essentiel qui est le handball.
La France passe à l'Ukraine au championnat d'Europe de handball, donc ce soir à 18h. Et puis déjà 3 titres dans le camp tricolore au championnat du monde de paraski ou ski handisport, championnat qui a donc très bien commencé. En ski alpin, médaille d'or sur la descente pour Marie Baucher et pour Hyacinthe Delaplace et son guide Valentin Giromoine. Un titre aussi en snowboard pour Maxime Montagioni.
Bravo et merci Laetitia.
Laetitia Bernard dans le journal de Christelle Rebière.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Avec du brouillard et du givre ce matin. Attention Jean-Michel Golinski.
Des brouillards givrants ce matin du nord de la Loire au Grand Est, également près de la Saône et de la Garonne. Au réveil, les températures sont positives sur la Corse et sur l'ouest de la Bretagne avec 8 à Ouessant, 10 à Lille-Rousse. Ailleurs, il gèle entre moins 1 moins 4 en général, moins 5 à Auch et Biscarrosse, moins 6 à Romorantin, moins 8 à Saint-Étienne. Aujourd'hui, le bleu va rapidement s'imposer au sud de la Loire et du Beaujolais aux Alpes jusqu'à la Méditerranée. Mais plus au nord, là, les trouées seront plus aléatoires et l'ouest de la Bretagne va garder la tête dans les nuages avec de la bruine en fin de journée. Cet après-midi, il est prévu 7 à 10 degrés sur l'arc atlantique, 10 à 14 autour de la Méditerranée et souvent à peine 3 à 6 sur les autres régions.
Jean-Michel Golinski, Météo France.